Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une étude de l'engagement chrétien, en quoi cela consiste. Et je voudrais commencer par une lecture, peut-être un peu longue, mais j'aime bien lire d'abord le bon passage, parce que d'abord la parole se suffit à elle-même, c'est la parole de Dieu, et je pense que c'est bien de pouvoir lire ces choses, non pas que vous n'avez pas l'occasion de le lire chacun pour vous, mais c'est bien de se remémorer certains passages de sa parole. Et je vous propose que l'on lise dans le premier livre de Samuel, les trois premiers chapitres. Alors on ne lira pas les trois chapitres en entier, mais on va lire une bonne partie de ces trois chapitres. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Donc c'est dans l'Ancien Testament. Une histoire que l'on connaît bien, mais peut-être que ça sera l'occasion de mettre l'accent sur des aspects de cette histoire qu'on passe des fois un peu plus sous silence. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit: « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent à leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari: « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit: « Fais ce qui te semblera bon. attend de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Et quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant est encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Au chapitre 2, nous avons une prière d'Anne qui est magnifique, mais on va la passer et on va continuer au verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Un peu plus loin, au verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Au chapitre 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et il ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel l'appela « Samuel, Samuel !» Il répondit « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi. » Et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Au verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo et par la parole de l'Éternel. Jusque-là. Alors peut-être vous allez dire, mais en quoi? Quel rapport avec l'engagement? Je vous ai dit le sujet de mon message aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'engagement, c'est un mot qui est très largement utilisé aujourd'hui dans bien des domaines de la vie. Hein, on peut l'utiliser au sujet du mariage, on peut l'utiliser au sujet des relations avec notre entourage, ou même au sujet du sport. On parle de s'engager dans le foot, par exemple, en ce moment, avec la Coupe du Monde. On parle de match engagé. En un sens, c'est un engagement qui fait référence au dévouement des joueurs, preuve d'altruisme, de passion, de leur motivation. Bien que je n'en suis pas très très sûr dans le cadre de la Coupe du Monde, mais en tout cas c'est ce qui se dit, hein, sur l'engagement. Mais Je pense que des fois, nous devons nous rappeler quel est notre engagement à nous et nous poser la question, quel est notre engagement? Et cet engagement, il doit se voir à la lumière de comment est-ce que le Seigneur va voir notre engagement. Est-ce que, à la fin de notre vie, le Seigneur pourra nous dire, comme en Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. J'aimerais bien que le Seigneur me dise ça à la fin de ma vie, quand je serai au ciel. Et qu'il le dise ça à chacun de nous, c'est ce que nous espérons. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que le Seigneur puisse nous dire cela? Eh bien, peut-être, la première chose à faire, c'est s'engager à mettre Jésus comme priorité de notre vie. À mettre notre vie entre ses mains. Parce qu'en effet, il est devant toute chose. Colossiens 1, versets 16 à 20, nous dit « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. » Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Notre priorité, notre engagement doit être de mettre Jésus en premier, parce qu'il est en premier, il est avant toute chose. C'est lui le Créateur, c'est lui qui a créé les choses, il était là avant la fondation du monde, il est encore présent maintenant. Et c'est en mettant Christ dans notre priorité que cela mettra nos engagements dans le bon sens, nous fera aller selon les bonnes priorités, d'abord Christ, puis après les autres. Ça fera aussi nos bons choix, car Jésus a dit... Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Et si notre trésor c'est Christ, notre cœur sera à Christ, tout le reste après en découlera. Nous prêtons attention aux choses que nous estimons, et c'est important que nous estimions d'abord Christ en premier, et cela doit se voir. Samuel, cet enfant, il témoigne de l'engagement d'une mère. Anne. Cette famille tout entière mettait Dieu à son centre. C'était une famille de Lévites, donc ils étaient engagés dans le service au temple, enfin, au tabernacle. Ils allaient tous les ans au temple. Ils priaient de tout leur cœur, et elle particulièrement. Elle priait en exposant sa peine. Après avoir demandé audience auprès de Dieu, elle loue l'Éternel. On le voit dans sa prière au début du chapitre 2 où elle demande que Dieu veuille bien écouter sa prière. Un peu comme on a vu vendredi soir, on étudiait le psaume 86, et on voit David aussi demande à ce que l'Éternel l'écoute. C'est important de se mettre au pied du Seigneur, au pied de Dieu, comme étant le Dieu et Père, mais aussi comme étant le Seigneur, comme un roi. On demande audience, on demande à ce que Dieu nous écoute. C'est ce qu'elle fait au début du chapitre 2. Elle demande à ce que Dieu l'écoute et en même temps elle va le glorifier, le louer. Ça fait partie de la prière. Et là, elle a certes commencé par faire un vœu à l'Éternel, elle a demandé à avoir un fils, mais elle s'est épanchée, elle a exposé toute sa douleur. Elle n'a pas demandé... de sanctionner cette mauvaise femme, l'autre femme de son mari, qui faisait exprès de la faire marcher, lui dire tu vois, t'as pas d'enfant, Dieu t'aime pas, t'as vu, tu es mal aimé, s'il t'a rendu stérile, c'est que tu veux pas, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas. Elle faisait exprès de faire ça. On pourrait assimiler cela à la persécution aujourd'hui. C'est un peu la même chose, nous croyants, on peut avoir de la persécution des personnes de Dieu. Dieu t'aime, t'as vu dans quel état tu es, hein? Si Dieu t'aimait, tu aurais beaucoup plus de richesses, tu aurais la bonne santé, tu aurais toutes ces choses-là. Eh bien, on peut assimiler à nos persécutions qu'on peut avoir à ce que cette femme devait subir. Ça ne devait pas être facile de voir tous les ans cette autre femme qui l'a chagrinée. Et ça doit être plus que du chagrin, hein, parce que les termes employés montrent que c'était très sévère et sûrement très méchant ce qu'elle disait à cette femme. Elle faisait exprès de mettre le doigt là où ça faisait mal. Et pour toutes les femmes qui sont là, vous devez bien savoir ce que c'est que ne pas avoir d'enfant. Ça doit être ô combien difficile. Et en plus d'avoir une femme qui met le doigt dessus et qui met l'accent là où ça fait mal, ça devait être très très dur. Et on doit comprendre la peine qu'avait cette femme, Anne, tous les ans d'aller au temple, de voir ses autres enfants et elle qui n'avait pas d'enfant. Alors qu'elle aimerait en avoir juste un. Elle n'a pas demandé d'en avoir plus, juste un seul. Et encore, elle demande, c'est juste le bonheur d'avoir un enfant. Et après, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel. C'est un sacrifice immense. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. De dire, bah, donne-moi un enfant, mais je te le laisserai pour toujours, toute sa vie. C'est extraordinaire. Elle a fait un choix de priorité, cette femme. Elle a choisi de mettre Dieu en premier. Et elle a voulu glorifier Dieu à travers cet enfant. Elle voulait en avoir un enfant, non pas pour elle-même, elle ne voulait même pas le garder. Elle voulait le donner à Dieu. Elle voulait montrer la puissance de Dieu à travers cet enfant. Et le consacrer à Dieu. Et là, c'est vraiment... Là, on voit les priorités. Et quel est le résultat de cette priorité? Ben, lorsqu'elle va se confier à Dieu, Dieu va répondre à sa prière. Et son engagement, elle a pris un engagement envers Dieu. Elle a fait un vœu, c'est un engagement. Elle a pris l'engagement envers Dieu de dire, je te sers, je te fais confiance, tu me donnes cet enfant, je te le donnerai pour toute sa vie. Et quel témoignage vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tous ces gens qui viennent au temple et qui voient ce petit enfant qui était à côté d'un vieillard, hein, parce que Élie, il n'était pas tout jeune, de voir ce petit enfant, ils savent bien que ce n'est pas celui d'Élie, et dire, mais quelle est la foi de cette femme qui a consacré son enfant, son tout petit enfant. Il était à peine sevré. Alors, on ne sait pas trop à quel âge il avait, mais être sevré, c'était très très jeune. Alors, même si à l'époque-là, on donnait le lait encore un âge très avancé, je pensais minimum 3 ans, mais ça pouvait aller jusqu'à 6 ans. Bon. En tout cas, il était très jeune, ça c'est sûr. Et elle a confié à l'Éternel. Et c'est un peu le témoignage que nous devons avoir aussi si nous nous engageons auprès de Dieu. Comment est-ce que les autres voient notre engagement? Est-ce que cet engagement, il se voit parmi ce que nous faisons, parmi nos actes? Est-ce que les autres peuvent dire, oui, effectivement, il s'est consacré, il a tout donné à l'Éternel? Est-ce qu'il nous a tout donné à notre Seigneur? Ou est-ce que c'est un engagement de parole, mais qu'au quotidien, on ne voit pas cet engagement-là? Là, au quotidien, Anne, tout le monde pouvait voir qu'elle s'était engagée, elle avait laissé son fils. Mais c'est pas une fois et puis je m'en débarrasse. Tous les ans, elle revenait, elle prenait soin quand même. Elle n'avait pas abandonné à l'Éternel, elle comptait en prendre soin. Tous les ans, elle lui faisait une robe qu'elle lui apportait, parce qu'il grandissait, jusqu'au bout. Elle a apporté aussi des biens pour le sacrificateur. Elle continue à servir l'Éternel. Et c'est impressionnant de voir cet engagement, ce service qu'elle a eu, et combien cela va lui être en bénédiction, finalement. Mettre les choses importantes en priorité. Des fois, il faut savoir faire des choix, mais faire des choix, c'est aussi savoir mettre les premières choses pour l'Éternel. Le début, ce qu'on appelle dans la Bible les prémices. Au tout début de la Bible, on a deux personnes qui ont fait une offrande à l'Éternel. On a eu Caïn, on a eu Abel. Abel, il nous est dit qu'il a donné un agneau premier-né, le premier. Il a consacré le meilleur, le premier-né. Il a commencé par ça. Caïn, lui, a donné son surplus, probablement, de ses récoltes. Parmi ses récoltes, il avait un peu plus, hop, il en a offert un peu des légumes, puis le reste, ils se sont servis. Surtout qu'à l'époque, en tout cas, il ne mangeait pas la viande, donc jusqu'à Noé. Donc Abel, il faisait ça probablement pour le vêtement, peut-être aussi pour le lait. Mais il a offert en sacrifice une de ses bêtes qui aurait pu lui servir. Non, il offre la première. Avant même de commencer, il commence par offrir. Et nous sommes aussi appelés à offrir nos prémices, la première chose. Commencer par Dieu. Et puis après, les autres viendront. Mais commencer par Dieu. Anne a offert finalement son premier fils. Et c'était même le seul qu'elle avait, du fait que c'était le premier. Et elle ne savait même pas si elle en aurait d'autres. Rien ne disait qu'elle en aurait d'autres. Elle n'a même pas demandé en avoir d'autres. Mais elle a offert son unique fils. Dieu lui en donnera d'autres. Mais elle a offert son premier fils. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus, dit le Seigneur en Matthieu 6, verset 33. Vivre pour la cause de Christ, c'est choisir d'avoir une vie qui met le royaume de Dieu au premier plan. Et c'est accepter le sacrifice. Jésus dit que si l'un d'entre nous abandonne sa maison, sa famille au nom de l'Évangile, eh bien, il lui sera rendu au centuple. Marc 10, verset 29-30. Donc, c'est une promesse de bénédiction. Alors, certains vont dire, bah, attention, c'est l'Évangile de prospérité. Alors, il faut lire jusqu'au bout. Il dit, il sera rendu au centuple, virgule, avec des persécutions. Et la vie éternelle. Donc, si on lit le verset en entier, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans l'Évangile de prospérité. Il y a les bénédictions, mais il y a des persécutions. Il y en a qui ont oublié de lire la fin du passage. Et la vie éternelle. Et oui, les bénédictions, elles sont surtout pour la vie éternelle. C'est ça que nous attendons. C'est la vie éternelle. Et les persécutions que le Seigneur indique, eh bien, elles sont pour un temps. Parce que nous voyons au-delà. Et nous pensons peut-être, mais comment est-ce possible, si j'abandonne ma vie, mes rêves, mes désirs, mes objectifs, que pourra-t-il m'être donné en retour? Eh bien, c'est placer le royaume de Dieu en priorité. Placer la vie éternelle en priorité. Savoir que nous vivrons pour l'éternité avec lui. Savoir que lorsqu'il va nous accueillir au ciel, il pourra dire, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Et la joie, pas pour un temps, pas pour quelques minutes, pas pour une attraction au parc de loisirs. Non, non, la joie pour l'éternité. Quelle joie! C'est pas une joie éphémère, c'est une joie durable. Savoir que Jésus est mort pour moi et m'a pardonné, c'est un cadeau immense, qui n'est pas mérité. Anne n'a pas demandé à avoir d'autres enfants. Elle s'est engagée, elle a donné son enfant à Dieu. Et Dieu l'a bénie. Et cette femme qui était stérile, ben, elle va avoir encore 3 garçons et 2 filles. 6 enfants. Bon, sa mari lui a dit qu'il valait mieux que 10 enfants. Elle n'a pas eu 10 enfants. Donc son mari veut toujours mieux que 10 enfants, mais... Non. Blague à part, elle a été bénie bien au-delà de ce qu'elle espérait. Hein. Mais s'engager, c'est pas seulement pour le plus tard, c'est aussi pour croître, pour progresser personnellement. S'engager à suivre ce chemin, eh bien, on s'engage à progresser, à prendre de sa parole, à grandir dans la foi. Samuel était tout petit et il a choisi de s'engager dans le chemin du Seigneur. Non pas seulement parce qu'il était dans le temple. On est nombreux à... peut-être à être né dans une famille chrétienne, ou en tout cas dans une famille qui se disait chrétienne, peut-être catholique, ou qui connaissait Dieu, qui allait à l'église, qui entendait les paroles. Samuel était comme cela, il était dans le temple. Et j'ai envie de dire, un peu comme dans l'église catholique aujourd'hui, on peut y être, et puis on peut voir beaucoup de mauvaises choses, parce qu'il est un mauvais exemple, Samuel. Il y avait les fils d'Élie qui faisaient des choses vraiment honteuses, hein. Qui piquait ce qui était destiné à l'Éternel, les offrandes de l'Éternel, il se les appropriait, il se mangeait, faisait des festins avec, il faisait même de la prostitution avec les femmes devant le temple, à l'entrée du temple. Quel exemple on avait! Samuel était là, tout petit enfant, et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un Élie vieillard qui reprenait à peine ses enfants, qui faisait n'importe quoi. Il savait bien ce qu'il faisait, mais c'est à peine s'il aurait dit, vous vous rendez compte ce que vous faites? Et puis bon, il les laissait faire, il ne sanctionnait pas. Et puis tout le monde voyait ce que faisaient ces fils-là dans le temple. Et Samuel était là, et il grandissait là. Qu'est-ce qu'il allait choisir? Choisir de faire comme ce que finalement faisaient tous ces sacrificateurs, ces fils d'Élie? Ou est-ce qu'il allait choisir de suivre l'Éternel? Et par des mots simples, il va pouvoir répondre à l'Éternel qui l'appelle. Il va répondre à l'appel de l'Éternel. Élie lui a dit répondre, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Eh bien Samuel, peut-être encore avec un peu de doute, va dire parle, ton serviteur écoute. Il ne répète pas parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parce que peut-être qu'il avait encore un petit doute, il n'avait jamais entendu. Peut-être qu'il disait c'est vraiment le Seigneur qui m'appelle. Alors dans le doute, il répète pas parle Éternel, il dit parle, ton serviteur écoute. Et puis on verra bien qui est-ce qui parle. Et il va pouvoir découvrir le Seigneur. Donc il avance tout doucement, mais il fait ce choix. Il fait ce choix d'écouter. Il fait ce choix de s'engager parce qu'il dit « J'écoute. J'écoute. J'écoute ce que tu as à me dire. » Et c'est un petit pas de foi qui fait un engagement de toute une vie. Et Samuel va écouter l'Éternel durablement, on l'a vu dans tout le passage. À partir de cette prière-là, cette relation qu'il va avoir avec Dieu ne va pas cesser. Il va toujours être à l'écoute de Dieu. Dieu va continuer à lui parler. Il va grandir, il va être une référence. Il va être un prophète connu et reconnu de Dieu et des hommes. Il va être un témoignage pour tout le monde. Ce petit pas de foi, ce petit engagement, on peut dire qu'il était tout petit, certes, c'était un enfant. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une foi comme les petits enfants. Ne demande pas d'avoir un très grand frère, il doit avoir comme un petit enfant. Ce petit engagement, ce petit pas de foi, même quelquefois avec nos doutes, on a des doutes, qui n'en a pas. On peut avoir des doutes. Samuel a probablement eu un petit doute en oubliant ce de répéter l'Éternel. Mais il s'est engagé, il y allait. Et puis, ça lui a été une grande bénédiction pour aller jusqu'au bout. C'est un équilibre entre une confiance et une inconscience. On ne sait pas trop ce qu'on doit, quand on s'engage des fois. Et nous sommes appelés aussi à cet engagement-là. Quand on s'engage à suivre le Seigneur, on ne sait pas trop en quoi on s'engage. Quand on s'engage à suivre le Seigneur, on s'engage à faire ce qu'il veut, à faire sa volonté, et non la nôtre. Donc finalement, on pourrait dire qu'on est un peu inconscient. On s'engage, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il nous veut derrière. Vers quoi on va? Anne s'était engagée à donner son fils. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager à donner ce que le Seigneur nous demandera de donner? Le Seigneur avait donné à Abraham de donner son fils aussi. Bon, je vous rassure, il ne demande pas de donner nos enfants systématiquement. Hein. Dieu merci, heureusement, on en est loin. Mais il demande à ce qu'on se donne entièrement, à ce qu'on donne tout pour lui. Il faut assumer le renoncement que l'on a, assumer de le servir. Et ne pas être comme le jeune homme riche, qu'on pourrait opposer à Samuel. En Matthieu 19, versets 16 à 22, on voit cet homme qui s'approche. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour de bon pour avoir la vie éternelle ?» Voilà un homme qui veut s'engager à faire des bonnes choses pour avoir la récompense, la vie éternelle. Et Jésus lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Autant tu ne tueras point, il n'y a pas de problème, mais honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas de faux témoignages. Ça commence à faire beaucoup. Et pourtant, le jeune homme répond, j'ai observé toutes ces choses. C'est déjà extraordinaire. Que me vend-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus, lui, ne s'arrête pas au choix de ce jeune homme, ni même à son orgueil, puisqu'il se croit presque parfait. En tout cas, il se croit juste, puisqu'il a accompli tous les commandements depuis sa jeunesse. Mais le Seigneur lui voit au cœur et il nous demande un engagement total. Ce qu'il nous demande, c'est de le mettre lui en priorité. Et ce que le Seigneur avait décelé, c'est que la priorité de ce jeune homme-là, c'était pas le ciel. C'était pas d'avoir la vie éternelle. La priorité, c'était d'être bien sur cette terre. D'avoir de bonnes choses, beaucoup de biens. Finalement, d'avoir des bénédictions sur cette terre. Il cherchait pas à suivre le Seigneur. Il cherchait à être bien sur cette terre. Et si, en plus, il pouvait être bien aussi au ciel et avoir la vie éternelle, alors ça serait super. Mais lorsque Jésus dit non, pour avoir l'éternel, il faut me suivre, moi. Et tout ce que cela veut dire. Me suivre sans condition, sans de barrière, sans de choses qui me retiennent. Et toi, ce qui te retient, c'est l'argent. Ben, il faut céder cela et me suivre. Et tu auras la vie éternelle. Me suivre, ça ne veut pas dire être sous bien. Parce qu'on pourrait dire à ce moment-là, le suivre, ça pourrait dire voir les miracles, etc. Mais et bien manger, puisqu'il nourrissait des foules. Mais c'est le suivre jusqu'à la croix. C'est pas que les bonnes choses, c'est aussi les persécutions. C'est s'engager à aller jusqu'au bout. Est-ce que nous savons ce que nous faisons quand nous engageons ? C'est aussi le lien vers l'autre, parce que lorsqu'on s'engage, il y a une réciprocité. Lorsqu'on s'engage, on dit qu'on va faire cela, mais ça veut dire que l'autre a confiance dans ce qu'on va faire, et il accepte cet engagement-là. Et si jamais on s'engage, c'est généralement parce qu'on attend un retour aussi, dans l'autre sens. S'engager devient aussi un lien avec ce que l'on met en gage. Cette femme, Anne, avait mis son fils unique en gage. En gage de cette confiance. Elle avait confiance que le Seigneur pouvait faire toute chose. Et on voit cette confiance en une chose extraordinaire. C'est que lorsqu'elle fait sa prière, elle sait qu'elle a été entendue. On l'a vu vendredi soir dans le psaume 86, David fait une prière et il sait qu'il a entendu, il affirme que Dieu lui a déjà donné toute chose. Cette femme, elle fait la prière, elle fait une prière pour que les choses aillent mieux, pour avoir un enfant. Elle pleurait avant la prière. Et après la prière, il nous est dit qu'elle sort rayonnante de joie et elle va manger. Elle ne mangeait pas avant parce qu'elle était triste. Elle sort rayonnante de joie, elle va manger. Mais elle n'est pas encore enceinte, hein, il n'y a encore rien qui s'est passé. Mais elle sait qu'elle a reçu déjà. Elle a reçu ce qu'elle a demandé. Elle a cette certitude-là. Elle s'est engagée vers Dieu. Elle a la certitude de la foi, elle sait que Dieu lui a répondu. Et elle est déjà heureuse. Elle est déjà heureuse. Pourtant, l'autre femme, elle devait continuer à la titiller et lui dire « t'as toujours rien ». Ben non, elle est heureuse, elle sait qu'elle a déjà ce qu'elle a demandé. Et ça, c'est le témoignage que nous devons avoir. On a vu Robert la semaine dernière qui nous parlait de cette joie que nous sommes appelés à avoir. Nous devons avoir la joie avec la certitude d'avoir déjà les choses que Dieu nous a promises. Malgré toutes les persécutions, malgré tout ce qu'on peut avoir, c'est la joie de cet engagement. On s'est engagé envers le Seigneur. On sait que si on s'est engagé à le suivre, on sait qu'en retour, on a notre place au ciel. Et cette joie, elle doit se voir dès à présent parce que nous avons la certitude de l'avoir. Nous devons ressortir de notre prière avec la joie au visage, avec l'engagement que nous avons de le suivre jusqu'au bout, cet engagement de le respecter parce que nous savons que nous avons déjà ce qu'il nous a donné. Et quel est cet engagement ? On peut le voir en Michée au chapitre 6, versets 7 à 9. Il est dit « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Non, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. » C'est un passage très connu de Michée qu'on aime bien lire. Et j'ai voulu lire le verset avant parce que, enfin, insiste, Dieu ne nous demande pas de sacrifier nos enfants. Il ne demande pas les premiers-nés. Ça ne sert à rien. Il ne demande pas les myriades de torrents d'huile, de béliers, de tout ce qu'on pourrait donner comme offrande. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il ne demande pas de tout sacrifier pour lui. Mais il demande à ce qu'on le suive. Et pour cela, trois choses, trois attitudes fondamentales sont demandées. La justice, la bonté, la relation avec Dieu. Tous ces aspects sont les racines de nos actes et de nos convictions en tant que chrétiens. Ils engagent notre esprit et nos relations avec les autres, en nous invitant à nous situer en permanence en face d'eux. Est-ce qu'aujourd'hui, mon engagement envers Dieu m'a conduit à être juste, bon, à entretenir ma relation avec lui? Ma relation avec lui entretient ma relation avec l'autre en justice et en bonté. C'est le témoignage de ma relation avec mon Dieu. Alors, j'ai envie de dire à chacun sa méthode. On veut s'engager, on veut faire le service pour le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 7 nous dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Combien souvent nous sommes comme l'apôtre Paul, nous voudrions que notre engagement que nous avons envers Dieu, ben, que tous les autres aient le même engagement. Sinon on a tendance à dire « Oh non, mais t'as vu, moi j'ai un service dans l'église, et les autres, ils font quoi dans l'église ?» Non. L'apôtre Paul, même lui, il aurait aimé ça, mais il réalise que non, chacun tient de Dieu un don particulier. D'une manière ou d'une autre, on a un service à faire. Romains 12, versets 3 à 12, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu répartit à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs formons un seul corps. En Christ, nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de sa foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui exhorte à l'exhortation, pardon, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez peints d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Comment nous engager pour le Seigneur? Si nous faisons tous partie de la même maison, chacun a son service particulier. Aucun à envier, tous différents. Il y a de la place pour tous. Le Seigneur nous a préparé une place pour tous. Mais ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire bien et ne pas regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin et se concentrer plutôt à la poutre qui est dans notre œil. Nous avons un service à faire selon ce que le Seigneur nous a donné comme don à faire. Par contre, il nous demande de le faire bien. si vous avez un service d'exhortation, faites-le avec l'exhortation. Celui qui enseigne, qui s'attache à son enseignement. Celui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère. Le don que le Seigneur nous a donné, nous sommes appelés à le faire pleinement, à fond, l'utiliser complètement pour son service, et pas à moitié. C'est comme ça que nous devons nous engager, sachant que le Seigneur, lui, a offert, s'est engagé. Il s'est engagé, lui qui était le Créateur, lui qui a fait toutes choses, lui qui s'était engagé à être lui-même, pur, saint, irréprochable. Il a inversé l'engagement. Il s'est offert. Il nous a donné le sacrifice. Nous n'avons plus qu'à le recevoir. Lui qui était pur, il nous a donné son corps en sacrifice, donné son sang, pour que l'on puisse être auprès de lui. Et finalement, quel engagement nous avons? C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui s'est engagé. Il s'est engagé, il s'est offert pour que nous puissions tout avoir. C'est l'engagement suprême. Et nous n'avons plus qu'à recevoir. Et après, comment est-ce que nous pouvons parler d'engagement de notre part quand on voit l'engagement du Seigneur, ce que lui a fait pour nous? Combien plus nous devrions, une fois que nous avons accepté ce sacrifice, eh bien nous engager à être pleinement pour lui. Et si aujourd'hui il y a encore parmi vous quelqu'un qui n'a pas encore répondu à cet engagement du Seigneur, qui n'a pas répondu à cet appel, à cette offre, il est encore temps de le faire. Aujourd'hui, encore un jour du salut, je vous engage à le faire. Et votre engagement en retour sera naturel. Devant un tel sacrifice, nous ne pouvons que nous engager à lui répondre pleinement, lui en priorité.